Alors, c'est la balado-diffusion de la sphère. Encore une fois, on vous remercie de nous télécharger. D'ailleurs, vous savez, hier, j'étais dans un parc pour parler de la nouvelle d'Apple à l'émission... de Facebook. Cette ouverture d'un nouveau laboratoire. Et il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit, écoute, Monsieur Dugas, j'aime beaucoup, beaucoup votre émission. Moi, je suis vraiment une techno nulle, puis j'ai même pas de téléphone, puis je vous écoute pareil. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même un beau compliment, parce que on sait qu'ici, les gens qui viennent sont généralement très branchés. On parle aussi aux geeks, mais quand j'ai des gens comme ça qui me disent, ben on parle aux geeks, mais on vous comprend, on est content de comprendre aussi, de faire de la pédagogie auprès de ces gens-là, ben moi, écoutez, ça me fait vraiment très, très plaisir. Alors, Louise, je crois qu'elle s'appelle. Elle nous écoute en balado, d'ailleurs. Ben, Louise, merci beaucoup de nous écouter et de continuer à écouter La Sphère. On a ici en studio la joyeuse équipe qui change beaucoup. On est plus dans le... On est vraiment dans une esthétique, ou plutôt ouais, une éthique du changement, parce que ça change à chaque semaine. On a Nadia Serrayoko, qui bonjour, est encore là. Bonjour, Nadia. Ça va bien?
Ça va très bien. J'ai envie de prendre des photos de vous puis de les poster en ligne.
Nadia, vous avez pris des photos de moi cette semaine qui étaient affreuses.
Mathieu m'en veut. Encore, il faut que je fasse changer mes lunettes.
C'était dégueulasse.
Mais pourtant, les gens... Il y avait pas de filtre, peut-être.
Ah, peut-être, c'est ça. Mais les gens trouvaient qu'il se ressemblait dans son enthousiasme quand il parle. Mais Mathieu était fâché. Il voulait la faire laminer.
Je vais vous expliquer. Là, on est dans la balado. Donc, on est avec les gens qui trippent vraiment se faire. On a fait un petit dîner d'équipe. Ça arrive très peu qu'on puisse réunir toute la gang comme ça. Et on a fait un dîner pour souhaiter la bienvenue à des nouvelles personnes. Et donc, Nadia a pris des photos de manière effrénée. Et une photo de moi que
une vraie compulsion.
Je sais. Gars, j'ai encore prêt à tirer ici.
Il y a Fabien. Salut, Fabien.
Salut, Mathieu.
Ça va bien?
On peut se dire salut, ça, c'est cool.
Ouais, salut. Bon, ça, j'aime ça. Ouais, et t'es venu avec ta petite fille aujourd'hui.
Ouais, et j'ai jamais eu autant de pression que ça.
Comment ça?
Ben, mon père est déjà venu, c'était correct. Mais là, ma fille, il y a quelque chose de particulier.
Elle est en régie.
Très heureux, ça.
Bonjour, Dolores. C'est Dolores, la petite de Fabien.
Elle vient nous entendre.
On peut se permettre ça en balado. On a une nouvelle dans l'équipe. C'est sa première balado officielle. C'est Chloé Frelon. Bonjour, Chloé.
Salut, Mathieu.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Oui, ça va très bien. Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Bienvenue
beaucoup
dans l'équipe. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On peut même se tutoyer dans la balado. Tu nous arrives du journal Métro?
Oui, absolument.
Où tu travailles. T'animes un blog là-bas qui s'appelle Les URL. Qu'est-ce que c'est, les URL?
C'est un blog qui met de l'avant les femmes en techno au Québec. Parce que j'ai choisi de prendre la tangente modèle pour montrer que les femmes sont aussi pertinentes puis aussi bonnes que n'importe quel homme dans l'industrie.
Oui, et c'est d'ailleurs le thème de tes chroniques dans cette nouvelle saison de La Sphère. On a une amie aussi avec nous. Bienvenue, Chloé. On s'en parle tantôt.
Merci.
Avec Emmanuel Reynaud qui va nous présenter. On a une amie qui vient ici souvent. On est très, très content à chaque fois de la recevoir. C'est Anne-Sophie Letellier. Bonjour, Anne-Sophie.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, oui. Beaucoup de bateaux cet été?
Ah, quand même un peu.
Bateau
dans
le Pacifique, en plus.
Dans le
chanceuse.
Pacifique, oui, c'était fun.
Et là, t'es venue jeter l'angle pour finir ton... Là, t'as un doctorat à finir, quand même.
J'essaie d'écrire une thèse.
Bon, c'est bien. Ben, écoute, entre deux paragraphes, tu viens faire un tour ici.
Exactement.
En studio. Et on a un nouvel ami. C'est sa première ici à La Sphère. Il s'appelle Charles-Antoine Fortin-Tam. C'est bien ça, oui. Charles-Antoine Fortin-Tam. Bonjour, Charles-Antoine.
C'est plutôt Jean-François, mais c'est pas grave.
Non, mais je sais pas pourquoi. Depuis tantôt, je t'appelle Charles-Antoine. Et là, c'est à ça que ça sert aussi, la balado. C'est à changer ces trucs-là. Donc, Charles-Antoine, qui vient ici avec Purism, tu vas nous parler d'équipement qui est libre, on pourrait dire, de la... En fait, c'est des vis libres dont tu nous parles.
C'est là-dedans. Même Jean-François.
C'est même Jean-François, oui, c'est ça.
Oui, on est entre amis, ça peut être Jeff aussi.
Là, okay.
C'est plus facile.
Jeff Tam.
Ouais.
Donc, tu vas nous parler, en fait, de vis et d'écrou libre aujourd'hui.
Alors, on pourrait dire ça. Tant qu'on est dans le hardware, on pourrait parler de ben, il n'y a pas vraiment de hardware libre chez Rona, mais donc, on ne va pas rentrer dans les vis.
Mm-hmm.
Si ce n'est que des vis cachées du matériel qu'on trouve communément.
Exactement. C'est une très belle manière de le dire. On va commencer avec une petite nouvelle rapidement avant qu'on tombe en onde. C'est Chloé qui a trouvé ça. L'évolution, c'est un article assez incroyable. L'évolution de la femme dans les photos génériques qu'on trouve, les fameuses stock photos, c'est quand même incroyable, cet article du New York Times.
Oui, c'est ça, un article du New York Times qui montre chez Getty Images. Donc, Getty Images, c'est un énorme site de banque de photos très connu, utilisé pour les blogs, les sites d'actualité, etc. Quand vous avez besoin d'illustrer un article, ben, vous allez acheter une photo sur le site de Getty Images. Fait que le journal a décidé de comparer quelle photo avait été le plus achetée pour le terme « femme » en 2007 et en 2017. En 2007, on voit une femme couchée dans un lit, nue. Son visage est très apparent. Mm-hmm. Puis, en 2017, on voit une femme qui est en train de faire de la randonnée à Banff. On ne voit pas son visage. On voit juste qu'elle a l'air d'être aventurière. Il y a le vide à côté d'elle. On dirait que tout est possible.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça?
Getty Images, c'est tellement énorme comme site que c'est comme une photo de ce que la société est. Donc, le fait que des sites d'actualité aient voulu, en 2017, montrer la femme comme quelqu'un qui était sexualisé, objectivisé, et en 10 ans plus tard, une femme capable, une femme qui est dans l'action, dans l'aventure... c'est le reflet, quelque part, de la société, effectivement.
Ils ont été proactifs aussi. Ils ont mis en place un studio particulier avec des femmes, où on mettait l'accent sur une image positive des femmes dès 2014. Ils avaient fait une sortie médiatique à ce sujet. Ils avaient pris des photos dans ce contexte-là et ça a beaucoup marché. Donc, il y a eu certaines proactivités de la part aussi de Getty Images qu'on peut souligner.
Oui, puis il faut souligner aussi que, en tout cas, des fois, on pense qu'il y a il y a des évolutions où le progrès, en fait, ça régresse. Mais dans ce cas-là, en tout cas, il semble avoir... des manières d'espérer. On salue.
Absolument. Ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles, la technologie.
Non, effectivement. Ici Mathieu Dugal. Vous écoutez La Sphère. Émission, c'est pas compliqué, une grande émission spéciale où on ne vous parlera pas des nouveaux produits Apple. Chers auditeurs qui nous écoutez de plus en plus nombreux, bienvenue à cette nouvelle sphère en direct du Studio 25 à Radio-Canada à Montréal. On est très content d'être ici dans notre deuxième sous-sol climatisé dans ce beau samedi. On espère que partout au pays, c'est le cas pour vous. Aujourd'hui à l'émission, dans la foulée de cette annonce de produits Apple, on a décidé, nous, de s'intéresser au logiciel libre. Alors, ne changez pas de poste tout de suite, fermez pas votre radio, continuez à faire ce que vous faites et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait en penser a priori de cette question du logiciel libre. Et en studio, pour me seconder dans cette tâche au cours des prochaines minutes, Nadia Sarayako, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Fabien Lozac,
bonjour.
On a une nouvelle amie en studio, c'est une nouvelle collaboratrice. On vous avait promis des nouveautés cette année à La Sphère. On est très content d'avoir maintenant avec nous. Elle était déjà venue comme invitée à La Sphère, mais là maintenant, on l'a vraiment repêchée. C'est une joueuse de premier trio, on va le dire tout de suite. On est très chanceux de l'avoir ici à l'émission. Il s'agit de Chloé Frelon du journal Métro. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu.
Officiellement, bienvenue.
Merci beaucoup.
À l'émission. Vous allez nous parler de femmes en techno lors de cette saison 2017-2018.
Oui, absolument. Des portraits de femmes qui s'illustrent dans leur catégorie, dans l'industrie, pour les choses extraordinaires qu'elles font.
Et il y en a beaucoup plus qu'on le pense.
Oh, il faut
quand même le souligner. Et on va les découvrir notamment aujourd'hui. Vous allez nous parler d'Emmanuel Reynaud et son Makerspace. C'est un espace de travail collaboratif. Et en fait, c'est dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. On va parler de logiciels libres. Vous savez, cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle de Tesla. On est au cœur de l'ouragan Irma. Écoutez bien ça. C'est Irma. Bon, évidemment, tout est sans dessus-dessous en Floride. Il y a des gens qui fuient cette catastrophe naturelle. Il y a des propriétaires de Tesla qui ont des batteries, des autos qui ont toutes les mêmes batteries. Mais eux, ils n'avaient payé que pour la charge de 60 kW. Ils se réveillent un matin, ils se rendent compte que leur batterie affiche 75 kW. bonne nouvelle, parce que, bon, hein, Tesla, dans sa grande mansuétude, dit, bon, ben vous n'avez pas payé pour une mise à jour qui vous offre 75 kilowatts, mais on va vous la donner pareil, parce que, ben écoutez, hein, c'est l'ouragan qui le décide. On va vous permettre de quitter cet ouragan-là. Dans le monde du libre et dans bien des domaines, ça fait grincer un peu des dents parce que c'est un peu... des gens vont dire, mais c'est un peu ridicule. On a une batterie, la même batterie sous le capot, mais si tu donnes pas un 8 000, un 10 000 $ de plus, ben tu n'as pas accès à cette,
c'est
à cette puissance-là.
C'est un logiciel qui contrôle ça, Mathieu. C'est donc en quelques secondes qu'on peut activer ça. Mm-hmm. Et c'est que les modèles qu'on vend moins cher de Tesla en ce moment n'ont pas la pleine capacité de la batterie. Les modèles haut de gamme ont donc cette capacité-là. Et quand Tesla a vu cette situation-là, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés en ligne avec les coordonnées des voitures en question. Et en un clic, littéralement, ils ont pu augmenter la capacité de la batterie. Et là, pour les économistes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un prix discriminatoire. Ça veut dire que si Fabien a acheté le modèle haut de gamme, il a la même batterie que moi, mais moi, parce que j'ai payé un prix différent, j'ai pas la même capacité.
Les marques de voitures font déjà ça depuis longtemps. Oui,
sur d'autres
d'échelle.
Choses, oui.
Il y a même une économie de ça qu'on appelle chipper son auto pour changer la puce et pour gagner quelques chevaux.
Tout
donc, des autos sont déjà bridées et les manufacturiers qui ont souvent plusieurs marques, Volkswagen, Audi, Lamborghini, travaillent souvent sur les mêmes plateformes et ils brident les moteurs.
En informatique aussi, ben c'est un modèle qui existe, mais
le premium et le premium entre autres.
Oui, mais c'est ça le dit, mais c'est l'aspect discrétionnaire également de la compagnie qui décide elle-même que bon, ben on va laisser la chance à certains propriétaires qui n'ont pas payé la surprime d'avoir accès à un surplus de puissance. Moi, j'aimerais savoir quelqu'un qui travaille dans le libre, Jean-François Fortin-Tam. On va parler donc des ordinateurs qui s'appellent Purism, des ordinateurs qui sont vraiment construits selon l'éthique du libre. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé cette semaine avec Tesla?
Moi, sans même le chapeau de Purism, je trouve que c'est une aberration. On paye pour du matériel qui a une différence physique de capacité, passe encore, ça c'est correct, mais qu'on soit artificiellement bridé pour une question logicielle, ça montre juste à quel point les gens sont dépossédés du produit qu'ils ont acheté.
Tout à fait, on
ne contrôle pas le logiciel, on ne contrôle pas son produit et on n'a aucune garantie que Tesla va rester gentil et sympathique dans le futur et que même que le produit va continuer à fonctionner dans le futur ou va pouvoir être adapté à nos besoins.
Mm-hmm. Et la compagnie aurait tout aussi pu décider de ne pas augmenter la puissance des batteries et elle aurait été dans son droit le plus strict là, également.
Mais comme c'est aux États-Unis, il ne serait pas vraiment fait poursuivre par un million de personnes.
Oui, effectivement. Oui, c'est bien qu'on le dise. Est-ce que vous avez suivi, Jean-François, l'annonce des produits Apple cette semaine?
Oh, je le suis un peu sur le côté de la bande, simplement un peu en dérision à chaque fois, parce que je me dis, bon, ils ne savent plus trop quoi inventer. Et là, maintenant, c'est la reconnaissance spatiale. Mais là, moi, je regarde ça d'un point de vue sécurité. Et la reconnaissance spatiale, pour moi, ce que ça veut dire, c'est si c'est ça le mécanisme principal pour débloquer un iPhone, ça veut dire que si la NSA ou les gens aux frontières veulent lire tout le contenu de mon téléphone, ils ont juste à le même mettre d'en face. Et donc, maintenant, il n'y en a plus de vie privée.
Ouais. Et ça pose beaucoup de questions aussi sur le contrôle, vous l'avez dit, Nadia. Oui. En fait, le contrôle qu'on a sur cette technologie-là qui nous entoure de plus en plus et le fait que...
Que l'on paye et qui ne nous appartient pratiquement pas, ouais. Mathieu, parce que, comme Jean-François le disait, dans le cas, par exemple, de la Tesla, supposons qu'il y a une collaboration entre les autorités et Tesla, on peut décider qu'on arrête votre voiture. Et ça commence à distance, ça commence à se faire même pour des questions de paiement sur d'autres modèles de voitures. Et là, vous avez la même chose qui se retrouve avec vos... Vous avez un téléphone qui est censément à vous, mais s'il peut se retourner contre vous, finalement, à côté, hein, il ne vous
obéit
pas.
Vous avez acheté votre voiture sur un plan de financement, vous n'avez pas payé.
C'est
arrivé.
Oui, et c'est arrivé, Fabien. Hein. Vous savez, j'en parlais dans une chronique ailleurs et quelqu'un m'a dit, oui, dans notre région, quelqu'un s'est fait barrer son démarreur à distance par le concessionnaire parce qu'il avait manqué un paiement. Et là, on se dit donc...
Quand c'est pour une auto, à la limite, on peut dire, bon, les implications, elles sont grandes, mais pas tant. Mais quand on parle de nos données, quand on parle de ce qui nous appartient de plus intime, là, c'est que maintenant, en plus, on le voit avec les nouvelles montres connectées d'Apple, les données biométriques sont colligées, sont enregistrées de facto. Là, les questions, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Là. En fait, les implications de ça sont beaucoup plus grandes.
Si je peux me permettre d'interrompre là-dessus, il y a aussi tout le domaine médical, que là, ça, c'est un spaghetti incroyable. Je connais une personne qui est fan du logiciel libre et qui a un pacemaker. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas le code source de son pacemaker. Et ces trucs-là ont des vulnérabilités qui peuvent être exploitées à distance. Ça a été prouvé. Donc, vous pouvez imaginer que cette personne-là ne dort pas très bien la nuit.
Ouais. Vous savez que c'est arrivé il y a 2 semaines. On s'est aperçu qu'une compagnie de pacemaker qui avait laissé aller justement sa marque a été rachetée par une autre. Puis, ils ont été obligés de, rappeler les gens, littéralement, pour mettre à jour ce logiciel-là qui avait justement, on avait détecté des vulnérabilités qui pouvaient être exploitées à distance. Et la personne ne peut pas changer le mot de passe. Comme on ne peut pas changer le mot de passe, la plupart des objets connectés qu'on a en ce moment.
Ben voilà.
Là qu'on en est.
Ben tout ça pour dire en fait que la philosophie du logiciel libre à la maison, dans votre auto, si vous nous écoutez un peu partout, ça peut vous paraître très très loin de votre vie de tous les jours, mais c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire le contrôle qu'on a ou pas sur la technologie qui nous entoure. Et des gens y pensent depuis très longtemps. Mm-hmm. Et c'est ce dont va nous parler Nadia Serrayoko.
Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free.
Et là là!
Ouf! Ouais.
C'est pas sur iTunes, ça. Hein?
C'est pas Daniel Johnson.
Non. Mais ça se trouve comme en plusieurs versions. Je sais que Jean-François avait entendu parler aussi des versions métal de cette chanson-là, des versions
techno.
C'est
très Noël, hein, quand même.
Oui, ben écoute, je pense que c'est Richard Stallman qui célèbre littéralement le Freedom Software parce que le logiciel libre, pour lui, on parle pas de gratuit, il faut vraiment dire libre, c'est sa priorité.
Bon, dans l'histoire de la technologie, à partir du moment où les ordinateurs ont été inventés, on a vu tout de suite des groupes défendre justement une appropriation libre de la chose. Même au MIT, milieu des années 40, le Tech Model Railroad Club, hein, qui est un peu le prototype des hackers, s'était développé. Et Richard Stallman, il est très important ça, dans l'histoire de la revendication du contrôle qu'on a sur les technologies.
Oui, tout à fait.
C'est qui ce bonhomme-là?
D'abord, c'est un produit MIT. C'est quelqu'un qui a fait son... Il n'y a pas ça que j'utilise ce mot-là, mais en tout cas, il a fait son PhD au MIT. C'est quelqu'un qui s'est toujours défini justement comme hacker, si on veut littéralement patenter. Et là, voilà qu'en 83, il fonde le mouvement du logiciel libre, le Freedom Software Movement, qui, quelques années plus tard, a été soutenu par une fondation. Et là, je suis allée écouter des vidéos, lire des textes, et lui-même a produit un très long manifeste encore récemment là-dessus, qui a été publié en partie dans Wired, et dont il a publié une version complète, qui explique un peu les racines, je vous dirais, Mathieu, philosophiques, qui sous-tendent vraiment son projet du logiciel libre. Et je vous dirais que ce sont des valeurs très similaires à celles qui animaient des gens comme Tim Berners-Lee, quand il a publié le code qui menait justement au www, finalement. Alors, des valeurs de liberté ou de free ou de gratuité, comme certains le diront, de démocratie et de partage. Puis là, quand on parle de logiciel libre, donc gratuit, mais c'est free qu'il faut utiliser, il faut vraiment, parce qu'on ne réfère pas uniquement au prix, c'est pour ça qu'on insiste toujours pour traduire par libre. Quand on parle
c'est pas parce que c'est gratuit que c'est libre. Là.
Non, c'est
ça. On a un exemple avec Facebook, notamment.
Tout à fait, oui, c'est ça. Puis Stallman dit aussi que vous pourriez décider, hein, entre deux personnes, de payer quelqu'un pour vous transmettre un logiciel qu'il a codé. Et là, pour lui, ça, c'est une autre affaire. Certains programmes non libres, dit-il, ou privateurs, là, comme Photoshop, sont vraiment coûteux. D'autres, comme Flash, sont disponibles gratuitement. Mais ils ont tous ces programmes-là ont les caractéristiques qu'ils appellent privatives, qui sont typiques des logiciels non libres. Puis souvent, quand on parle de privateurs, en ce moment, on va parler de malveillants parce que Stallman considère que les développeurs sont corrompus par le pouvoir qu'ils possèdent.
Bon, qui disait le pouvoir absolu corrompt absolument, là, c'est vrai en politique, c'est vrai également dans le monde du logiciel.
Puis pour votre exemple tout à l'heure, même de Tesla, on a vu comment c'est Dieu qui contrôle votre voiture. Puis avec le logiciel libre, les utilisateurs contrôlent le programme, que ce soit de manière individuelle ou collective. Tandis que notre fameux logiciel privateur contrôle les utilisateurs et une autre entité, possiblement développeur ou propriétaire, qui contrôle le programme. Aimeriez-vous connaître les caractéristiques, Mathieu?
J'aimerais connaître les caractéristiques, Nadia.
Oui, je voyais que vous...
Ben oui, je trépignais sur ma chaise.
J'avais pu photographier ça seulement. Donc, vous devez bénéficier de 4 libertés essentielles, Mathieu, pour vraiment dire que vous avez entre les mains un logiciel libre. La liberté de faire fonctionner le programme comme vous le souhaitez pour n'importe quel usage, donc de pouvoir l'utiliser comme vous voulez, la liberté d'étudier le code source du programme et de le modifier de sorte qu'il s'exécute comme vous le souhaitez. Mm-hmm. Fait que là, toute personne qui connaît la programmation puis qui a le logiciel peut le lire, comprend son fonctionnement et le modifier.
Ça veut dire, si on reprend la métaphore de Tesla tout à l'heure, que quelqu'un qui aurait eu des notions
aurait pu aller
dans son logiciel de Tesla et dire, hey, coudonc, là, j'ai la même batterie que quelqu'un qui a 75.
Je rentre une ligne de code et je débloque le 15% qui me manque.
Bon, 15%, mais en tout cas, le 15 kW de plus. Là. Ouais.
Exactement. Et là, la liberté de créer, de distribuer des copies exactes quand vous le souhaitez. Si le programme est libre, ça ne veut pas dire que quelqu'un a l'obligation de vous en proposer une copie ou que vous avez l'obligation vous-même de le proposer. Puis vous avez la liberté de faire et de distribuer des copies de vos versions modifiées quand vous le souhaitez. Et là, on parle de logiciel libre, mais maintenant, on va parler maintenant de code source ouvert, etc. Parce que là, ça entre un peu dans le côté commercial. Et ça, ils ne sont pas nécessairement ensemble. Et juste le petit exemple que je vous parlais tout à l'heure, mm-hmm. là, il dit... Le programme libre vous permet de bricoler ou de faire ce que vous voulez. L'idée de bricoler le logiciel doit vous paraître ridicule si vous avez l'habitude des boîtes noires, si vous êtes un fan, par exemple, d'Apple et que vous ne pouvez toucher à rien, mais du logiciel privataire. Mais dans le monde du libre, c'est courant, puis c'est une bonne façon d'apprendre à programmer que de pouvoir modifier un petit peu son truc. Puis même le passe-temps, c'est Richard Stallman qui dit, je me suis mis une citation, le passe-temps traditionnel des Américains qui était, comme on dit, de bricoler des voitures, est entravé parce que les voitures contiennent maintenant des logiciels non libres.
Mm-hmm. Donc, le fameux patenteux, là, on a tous des histoires, soit d'un père, d'un oncle...
Moi, j'ai vu mon père toute ma jeunesse jouer dans les voitures, les fêtes semaines.
L'idée, c'est d'ouvrir le moteur, de défaire les trucs et de voir comment ça fonctionne, même dans le monde de l'informatique. On regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec la réalité virtuelle, avec Palmer Luckey.
Oui.
Il avait fait ça avec les casques de réalité virtuelle qui n'étaient pas à son goût. Il les démontait, regardait comment ça fonctionnait.
Ben oui.
Et il a pu, comme ça, donc créer notamment l'Oculus.
Et si vous voulez savoir les gestes malveillants qui peuvent arriver là, avec des programmes privateurs, l'espionnage et la collecte de données, ça, je pense que ça vous préoccupe pas mal tous. Mm-hmm. Il y a le système d'exploitation des iTrucks, ils les appellent comme ça, les iMachins pour Apple, par exemple, fait tout cela, Windows également, puis les appareils mobiles sont de plus en plus équipés de puces ARM qui permet aussi un espionnage constant. Puis l'utilisation de logiciels privateurs dans le cadre de l'Internet des objets, là, on y arrive, Mathieu, transformerait ce dernier, c'est-à-dire notre Internet des objets, en Internet du télémarketing, ainsi qu'en Internet des fouineurs qui veulent en savoir plus sur nous.
Ouais.
Et je terminerai justement avec une citation de M. Stallman qui dit « La vie sans liberté est une oppression et cela s'applique à l'informatique comme à toute activité de nos vies quotidiennes. L'une des libertés est celle de coopérer avec les autres. En empêchant les gens de coopérer, on les maintient dans la division, point de départ d'une machination ayant pour but de les opprimer. » C'est Richard Stallman.
Richard Stallman, quelqu'un qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire du logiciel. C'est vraiment quelqu'un qui est très important dans l'histoire de la technologie également. Mais merci beaucoup pour ce petit rappel de notion fondamentale du libre au moment où on pense que, dans le fond, par défaut, nous sommes dans des environnements propriétaires.
J'aurais pu continuer encore 3-4 minutes, mais je vous enverrai une vidéo de Richard Stallman.
On est très content d'ailleurs d'avoir entendu chanter avec sa machine à écrire. C'est aussi quelqu'un qui a des talents artistiques que certains. Merci beaucoup, Nadia Sarayoko.
Ça me fait plaisir, Mathieu.
On l'a vu en techno, ben, il y a des gens qui ont tendance à nous dire « pose pas de questions » et il y en a d'autres qui disent au contraire « ben écoute, prends ta techno et marche ». Et parmi les gens qui nous disent ça, il y a Emmanuelle Reynaud. Emmanuelle Reynaud, c'est le premier portrait que nous propose notre nouvelle collaboratrice à la sphère. Je la représente, Chloé Frelon, du journal Métro, qui a ce blog Les URL. Et donc, tout au long de cette saison, Chloé, vous allez nous présenter des portraits de femmes qui sont impliquées en techno. Et là, vous nous parlez d'Emmanuelle Reynaud. Emmanuelle Reynaud qui préside à un makerspace qui s'appelle l'Espace Fabrique. On peut vraiment dire que cette femme-là milite pour la réappropriation de notre rapport à la techno, non?
Oui, absolument. Puis pas seulement notre rapport à la techno. Vous allez voir, Emmanuelle, elle est plein de personnes en une. En
fait. Ah ouais?
Oui, effectivement. Donc, c'est la fondatrice de ce premier makerspace, l'Espace Fabrique. Puis c'est vraiment le genre, vous lui fermez la porte, elle passe par la fenêtre. Vous allez voir, elle a, ça n'a pas été facile pour elle de monter son projet, mais
elle est à cœur dans l'âme. Là.
Ah oui, je pense que ça lui plairait comme définition, effectivement. Donc, elle me donne rendez-vous à son atelier à Saint-Henri, à Montréal. J'arrive là-bas, je m'attendais à quelque chose de chaleureux, petit. Pas du tout. Ça fait 12 000 pieds carrés, c'est immense. Il y a du bruit, ça sent les métaux. Elle me dit qu'il y a 500 000 $ d'installation à l'intérieur, 19 machines industrielles. Je me sens toute petite. Elle me fait faire le tour du propriétaire, puis elle me dit plein de mots que je ne comprends pas, mais je continue.
Ça arrive à la sphère des fois qu'on entend ça, des mots qu'on ne comprend pas. Ouais. On les explique.
Elle est en pleine discussion avec un de ses employés. Puis elle me fait signe et on va aller se jaser. Il y a une grande roue qui est en train de se monter au sol sur son atelier, faite par des cadres de vélo. Puis c'était il y a quelques semaines, mais maintenant vous pouvez la voir. Elle est en face de la BNQ à Montréal. Je vais prendre un moment maintenant pour vous expliquer ce que c'est qu'un makerspace. Fait qu'un makerspace, c'est aussi évident qu'un endroit où on fait. C'est un endroit où on crée. C'est aussi bête que ça.
On parlait de la métaphore tout à l'heure du garage, là. Vraiment, le makerspace, c'est l'idée de reprendre cette espèce d'idéal du patentage, là. C'est-à-dire qu'on a des produits, on les défait, on regarde comment ça marche et on en recrée des meilleurs.
C'est ça, exactement. Vous réappropriez les objets. Donc, c'est vous le créateur, vous êtes le concepteur également. Là, je veux faire une parenthèse. Il ne faut pas les confondre avec les Fab Labs. Si vous êtes comme moi, j'ai longtemps cru qu'un Fab Lab, c'était un fabuleux laboratoire. Non, c'est un Fabricate Laboratory. Fait que c'est un laboratoire où vous faites également, mais là, vous allez plutôt utiliser des ordinateurs, des logiciels qui sont souvent en libre.
Oui.
Tout ça, c'est régi par le MIT avec des règles très strictes.
Donc, il y a vraiment un carnet de charges là, pour qu'on puisse avoir
Absolument. Le
saut Fab Lab.
Oui.
Mais donc, le Makerspace, c'est quoi la différence par rapport au Fab Lab?
Le Fab Lab, si je me trompe, dites-le-moi. Les Fab Labs, c'est des ordinateurs. Le makerspace, c'est des machines. Fait que vous allez construire.
Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est plus, physique. Là.
Oui, ouais, exactement.
C'est ça.
Fait que vous arrivez là-bas, vous payez un montant qui se veut très abordable et vous commencez à faire, à fabriquer. Si vous n'êtes pas très à l'aise, y a des gens qui sont là pour vous aider, qui vont vous donner des conseils, etc.
Mais qui va là?
C'est ça. Les clients de l'Espace Fabrique, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est vous, Mathieu, par exemple. Vous voudriez vous construire un...
Je suis très content que vous me compariez à tout le monde.
Ah,
Ça me rend plus humain.
Oui? Ouais. Ça vous plaint.
Monsieur tout le monde, c'est très moi, ça. Bon, mais donc, c'est accessible à tous. Là.
Oui, ouais. Absolument. Fait que vous arrivez là-bas et vous vous dites, moi, je voudrais un bureau debout. Parce que j'ai mal au dos. J'ai le dos sensible. Fait que vous arrivez là-bas, puis avec vos plans, on va pouvoir vous aider. Est-ce que vos plans sont de la bonne façon? Blablabla. Puis vous allez fabriquer votre table, votre bureau debout, à votre dimension, pour une fraction du prix que ça vous coûterait dans un magasin. Si ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde, c'est également, par exemple, pour les jeunes pousses de Montréal, pour la grande entreprise qui a besoin de faire du recherche et développement pour un prototype. Ça aussi, c'est possible.
On offre l'espace pour ces gens-là.
Oui, absolument.
Donc, si je comprends bien, il y a toutes sortes de monde qui se côtoient là, dans un makerspace. Là.
Oui, c'est absolument, c'est complètement varié. Puis ça se veut de cette façon-là.
Oui.
Ça se veut rassembleur. Puis, comme par exemple à Montréal, on parle beaucoup de fintech, Internet des objets, etc. Mais justement, ces objets-là, il faut une place pour les fabriquer. Puis c'est là où l'espace fabrique se révèle intéressant.
Depuis combien de temps il travaille là-dessus, Emmanuel Reynaud?
Ça fait en tout, ça fait 5 ans. Mais ça fait 2 ans et demi à temps plein et ça fait 6 semaines que l'espace est ouvert.
Ah oui?
Oui, absolument. Puis ça n'a pas du tout été facile de monter son projet. Pour elle, c'est important que ce soit une coopérative, dans le même esprit que du makerspace ouvert, où la voix de chacun compte, où ils peuvent prendre des décisions ensemble. Puis, parce qu'elle voulait être une coopérative, elle ne rentrait dans aucune case pour demander une subvention. C'était ni une entreprise incorporée, ni un OSBL. Puis là, les gens ne savaient pas comment la considérer, ne savaient pas quoi faire avec cette hybride qu'elle était devenue. Fait qu'elle était une pionnière, puis elle a dû enfoncer des portes.
C'est où, ça?
C'est à Saint-Henri.
Mais où exactement, dans Saint-Henri?
Ah, oh ben, je. Euh, J'étais sortie à la station de métro Lionel. Ah. Ça vous donne une indication?
C'est dans le coin de, à distance de marche de Lionel Gros. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Là? Bon, ça vient d'ouvrir. Elle a travaillé très longtemps avec ça. Elle a quand même de bonnes ambitions pour ce makerspace là. Qu'est-ce qu'elle voudrait que ça devienne, le makerspace?
Elle voudrait que ça devienne un endroit où tout le monde pourrait aller et créer. Elle, à la base, est une artiste. Puis les artistes, en milieu industriel, par exemple, lorsque vous quittez l'école, vous quittez avec votre connaissance, etc. Mais il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous pratiquer. Fait que finalement, votre art, votre pratique, vous êtes obligé de l'abandonner. Fait qu'elle veut que les artistes puissent y aller pour créer. Elle veut que les gens, n'importe quelle personne puisse y aller également, puisse soutenir en même temps Montréal. Comme par exemple, mettons Ubisoft qui sort un nouveau jeu, un jeu de guerre où il y a un hélicoptère. Cet hélicoptère-là, il pourrait vouloir le construire pour partir en tournée à travers le monde pour faire la promotion de son jeu.
Et donc le makerspace, c'est là que ça devient intéressant pour eux. Là.
Oui, absolument.
Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un atelier tout le temps à l'interne, ben, ils prennent le makerspace. Donc, on s'informe où pour avoir plus d'informations sur ce makerspace-là? Comment, si des gens qui sont à l'écoute, qui veulent aller créer là, comment on fait?
Mais en fait, c'est facile. Vous allez sur le site de l'Espace Fabrique, vous allez prendre un abonnement. C'est 20 $ par jour pour aller créer. Pour aller créer vos objets. Mm-hmm. Puis 20 $ par jour, là, c'est quasiment du gratuit pour Emmanuel parce que en fait, ça lui coûte 50 000 $ pour maintenir pour un mois entier son espace. Fait que 20 $ par jour, c'était le plus bas qu'elle pouvait aller pour offrir accès à son espace makerspace.
Ben voilà, ça s'appelle l'Espace Fabrique. C'est un nouveau makerspace qui vient de voir le jour ici à Montréal. Et ça, c'est signé Emmanuel Reynaud, notre premier portrait d'entrepreneur dans le monde de la techno, signé Chloé Frelon. Oui, je rappelle, Chloé, que vous êtes aussi derrière le blog Les URL sur le journal Métro. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous pouvez suivre La Sphère sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et Instagram, trouvez-nous à RC La Sphère. Sur Twitter, c'est tout simplement La Sphère en un mot.
On va rester dans le domaine du tangible, parce que vous savez, quand on parle de logiciels libres, c'est souvent, même pas mal toujours, des lignes de code. Ça demeure relativement abstrait. Mais si on vous disait que vous pourriez avoir accès à de l'équipement informatique qui est littéralement créé avec cette philosophie du libre-là, est-ce que vous l'achèteriez? En tout cas, il n'est pas encore très disponible, cet équipement-là, mais de plus en plus des gens travaillent très, très fort pour que, en fait, ces ordinateurs portables, ces téléphones soient aussi disponibles que des produits des grandes compagnies qui ne fonctionnent pas sous cette philosophie-là. Et pour nous parler de ces produits-là, notamment Purism, vous allez probablement en entendre parler davantage au cours des prochaines années. Jean-François Fortin-Tam, vous êtes contributeur de logiciels libres depuis 12 ans. Vous êtes également consultant indépendant en gestion d'entreprise. Rebonjour Jean-François Fortin-Tam.
Bonjour Mathieu.
Vous avez un très bel ordinateur avec vous, un ordinateur portable en fait qui a l'air tout ce que plus normal. Qu'est-ce qu'il a de différent d'un ordinateur Dell ou d'un PowerBook?
Donc ça, effectivement, l'ordinateur que j'ai devant moi, c'est un laptop de 13 pouces qui ressemble quand même, somme toute, au form factor d'un MacBook Air 13 pouces. Excepté que, il est en aluminium noir et tout ça, et qu'il n'y a pas de marque visible dessus. Mm-hmm. Mais si on regarde bien, en dessous, c'est inscrit Purism Librem 13. Ce qui est spécial avec cet ordinateur-là, c'est qu'il est conçu pour rouler entièrement un système d'opération libre sans avoir de blob qu'on appelle des tâches.
Qu'est-ce que c'est des tâches propriétaires?
C'est que dans un système d'exploitation, on a bien sûr les pilotes, les drivers, comme on appelle en bon français. Et le problème qu'on a souvent rencontré dans le monde de Linux et du logiciel libre, c'est les drivers qui ne sont pas entièrement libres ou qui ne sont pas libres du tout et qui sont combinés au noyau Linux. Et dans ce cas-ci, ce que ça fait, c'est qu'on dit que ça entache le noyau Linux parce que là, ça fait une espèce de boîte noire, qu'on ne sait pas exactement ce que ce driver-là peut être en train de faire.
Bon, en français, ça veut dire quoi?
Ça fait en sorte que, en fait, on ne peut pas faire entièrement confiance à sa machine.
Bon, voilà. Mais en fait, c'est ça que vous voulez nous dire, parce que on a des ordinateurs, en fait, tous les ordinateurs ou presque avec lesquels on travaille, il y a des parties qu'on ne contrôle pas, c'est ce que vous nous dites. Mm-hmm. Et ces parties-là, elles peuvent nous jouer des tours. Mm-hmm. Ça, cet ordinateur-là que vous avez, vous pouvez le configurer totalement?
On peut faire ce qu'on veut avec. Et le but vraiment de cet ordinateur-là, c'est de pouvoir y faire confiance. Donc, il fonctionne avec des distributions Linux qui sont extrêmement restrictives sur le point de dire, moi, je n'accepte aucun blob dans mon système d'opération. Et donc, ça, c'est un des très rares ordinateurs qu'on peut juste installer ces systèmes-là dessus et dire, hey, mais ça marche.
Oui, mais c'est une chose avec laquelle ça fait longtemps que je m'intéresse à cette question-là, que je regarde la manière dont ces choses-là fonctionnent. Et je me dis, pour le commun des mortels, là, vous venez de parler, je ne dis pas que vous parlez en langage crypté, là, mais mm-hmm. ce sont des langages, ce sont des philosophies qui sont quand même pas nécessairement faciles à appréhender pour le grand public qui veut avoir un produit, le fameux plug and play. T'ouvres ton ordi, tu te branches sur Internet, tu te poses pas de questions, ça marche, tu t'en vas voir les photos, tes photos de chats, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure.
Effectivement,
pourquoi,
c'est sûr.
Est-ce que c'est le talon d'Achille de l'industrie du libre? C'est-à-dire que c'est quand même réservé à des gens qui ont certaines connaissances en informatique.
C'était vrai, ça l'est de moins en moins. Traditionnellement, c'était quelque chose qu'on installait soi-même et qui était compliqué, que la moitié du temps, ça n'allait pas fonctionner ou qu'il fallait aller demander de l'aide à des gens qui s'y connaissaient. Et de plus en plus, premièrement, le logiciel libre en général est beaucoup plus facile à utiliser, peaufiner et développer. Mais aussi, le but d'un système comme les laptops de Purism, c'est de fournir quelque chose qui est, en anglais, on dirait convenient, mais donc pratique. C'est déjà préinstallé, ça fonctionne, c'est testé. Et donc, le but, c'est de rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde.
Mais ça marche dans certains domaines d'activité. Par exemple, moi, je travaille en publicité, en marketing. Tous les formats sont propriétaires. Je veux installer un CRM dans une compagnie, un outil de gestion de la relation client, par exemple. Je ne pourrais jamais utiliser cet ordinateur pour le faire.
Ça dépend.
mais est-ce que ça pourrait se faire?
À peu près tout est possible. Des choses que c'est impossible, j'en ai entendu bien souvent dans ma vie.
Mais là, c'est parce que vous êtes un geek, ouais. Vous êtes habitué à travailler avec du code, ça paraît. Est-ce qu'on est dans une période où, justement, on est dans le début là, de cette réappropriation-là du libre par des gens qui s'y connaîtraient un peu moins? Là, on est dans l'ordinateur. Il y a un téléphone qui s'en vient du côté de Purism. Vous croyez-vous que le grand public va s'approprier davantage ça?
Mais il y a une question aussi de marketing dans la chose. Là, évidemment, la communauté du libre doit toujours se battre un peu contre la grosse machine qui est le système en place.
Ouais.
Mais aussi, je prends par exemple mes oncles, mes tantes et ma famille proche.
Ouais.
Ils roulent Linux sur leur machine. C'est pas plus compliqué à utiliser pour un usage spécifique de base.
Mm-hmm.
Évidemment, si quelqu'un me parle de faire un usage avancé de modélisation 3D dans l'industrie de la construction, mm-hmm. ça marchera pas.
Mm-hmm.
Parce que les chiffres sont pas là.
Mais pour la vie de tous les jours, par exemple, si on veut bénéficier davantage de sécurité, si on veut se protéger davantage des incursions dans notre vie privée, vous dites que le libre, c'est une voie d'avenir.
Oui, puis de manière générale, c'est pas vrai entièrement que c'est plus difficile à utiliser. J'ai eu des gens qui sont venus me voir qui avaient bidouiller ou tester un peu mes ordinateurs et qui se sont dit, installe-moi donc telle version de Fedora ou je sais pas quoi, parce que Windows, c'est trop compliqué, j'en peux plus.
Ouais. C'est vrai que c'est un très bon exemple de dire que des fois, le format propriétaire peut être également très compliqué. Purism, donc, actuellement, on peut acheter ces ordinateurs-là. Ils ont un site web, c'est très facile à se procurer. Ils travaillent sur un téléphone, Purism. Est-ce que ce téléphone-là va voir le jour?
Là, c'est une question qui se pose en fonction de ce que les gens autour vont faire. Parce que là, en ce moment, le téléphone, il est en sociofinancement.
Mm-hmm.
Et donc, en principe, si on atteint le but de sociofinancement, le téléphone, il va exister. Et ce qui est spécial, c'est que c'est, pour une fois, pas un téléphone Android. Donc là, il y a une distinction importante de ce côté-là.
Qu'est-ce qu'il y a de différent avec Android?
Parce que là, Android, c'est une plateforme qui est contrôlée entièrement par Google, veut pas.
Mm-hmm.
Et c'est aussi... C'est pas la même plateforme, disons, que un système GNU Linux auquel on est habitué, nous, la communauté, sur nos laptops, sur nos desktops et tout ça. Mm-hmm. Là, je ne parle pas juste en termes d'interface, mais je parle en termes de collection de technologies.
Oh, on a justement quelqu'un... Nadia, votre téléphone... En fait, votre ordinateur Mac rouspété à cette...
Je peux bien s'objecter, ça ne me dérange pas.
Oui, mais ça sort quand,
c'était
ça?
C'était pas volontaire.
Ça sort quand, ce téléphone-là?
L'idée, c'est que ça sortirait, mais ça prend un certain temps de préparation côté matériel et logiciel et tout ça, mais je pense que ça serait pour le début 2019.
Qu'est-ce qui se passe avec votre ordi, Nadia?
Je voulais partager le téléphone Linux, puis il y avait une pub visiblement dessus.
Bon, voilà, ben c'est ça.
J'ai une petite question. Combien ça vaut, ce laptop-là, cet ordinateur portable, excusez-moi?
Alors, celui-là, c'est du... ça commence à 1300 $ à peu
près. Très intéressant.
C'est un Mac.
Oui, oui. C'est très comparable à un Mac ou des machines haut de gamme, mettons, chez Dell ou autre vendeur.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas... On s'entend, c'est pas un ordinateur jetable.
Bon.
C'est un ordinateur haute performance.
Je voudrais quand même dire, pour ceux qui nous écoutent puis qui sont sur Mac ou sur PC et qui voudraient passer à Linux, il y a quand même des systèmes d'exploitation Linux qui émulent très bien Mac et Windows, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Je pense notamment à Elementary OS qui ressemble vachement à un Mac.
Ouais. Sauf qu'on n'est pas dans un ordinateur qui lui-même est construit. Parce que là, vous, là, c'est tout. Là. Il y a le système d'exploitation et il y a l'ordinateur aussi qui est construit selon la philosophie libre. C'est bien ça?
Effectivement. Mm-hmm. Autant matériel que côté logiciel, c'est là pour respecter la vie privée et promouvoir la sécurité et la liberté.
Est-ce que vous pensez réellement que ça peut avoir, ça peut aller chercher un public qui n'a pas encore, qu'on n'a pas encore rejoint ce type d'ordinateur-là?
Je pense qu'il y a quand même un léger mouvement qui commence à se faire dans la population en général, des cœurs en titre face à être le produit, nous-mêmes, à être le produit, et de voir donner notre vie privée entière à Google, Apple, Facebook et compagnie.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et il y a une volonté, je pense, j'ai pas encore croisé quelqu'un qui est contre l'idée du logiciel libre et de vouloir s'affranchir un jour. C'est une question de temps, c'est une question de
convivialité. Hein. Ouais. Faut que les produits soient conviviaux pour que tout le monde puisse s'y trouver sans nécessairement avoir des notions très poussées en programmation. En tout cas, pour le moment, les ordinateurs, ils fonctionnent, ils sont très beaux, ils sont faciles à se procurer. Ça s'appelle Purism, si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Il y a un téléphone qui est dans les cartons, on y travaille, c'est en sous-financement, on y reviendra, en tout cas, si ça passe la phase de la production. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces produits-là. C'était vraiment une incursion dans des produits informatiques extrêmement rares. En fait, on n'en parle pas souvent. Jean-François Fortin-Tam, consultant indépendant en gestion d'entreprise. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça.
Ça fait un grand plaisir.
De programmation sont à la mode. On nous dit partout que l'information, en fait, la programmation, c'est le nouvel alphabet. Le nouveau latin. Il faut apprendre à programmer comme on apprend à compter, comme on apprend à lire. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on n'essaie pas de nous vendre un rêve inaccessible, mon cher Fabien?
C'est une bonne question.
J'espère que vous allez répondre.
Le rêve est peut-être accessible. Il y avait une publicité d'IBM dans les années 90, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. On y voyait la panthère rose qui allumait un PC. Et la publicité, elle affirmait que même si vous n'aviez jamais touché un micro-ordinateur de votre vie, il vous suffirait juste de 5 minutes pour apprendre à le brancher et pour apprendre à vous servir du PS1. Il s'appelait comme ça, le PS1 d'IBM. L'objectif publicitaire, on le comprend, c'est créer de l'intérêt pour la micro-informatique en affirmant que la micro-informatique, c'est très simple. Aujourd'hui, tout le monde a un PC à la maison et c'est au tour un peu du code de subir un peu ce traitement médiatique-là. On a Tim Cook, le grand patron d'Apple, qui affirme que le code est devenu amusant, interactif. Apple offre même des cours gratuits de programmation informatique dans les Apple Store. On a code.org, c'est une fondation à but non lucratif qui s'est donnée justement pour objectif de promouvoir le code, la programmation à l'école. On a de plus en plus de sites internet du genre Code Academy qui promettent d'apprendre à coder facilement avec des jeux. On a beaucoup de jeux aussi pour enfants, vous voyez, sur les Apple Store, par exemple. Et les types de marché de type Android. Et le discours, c'est toujours le même. Tout le monde peut apprendre à coder. Pas besoin d'être un génie. Il faut juste être motivé. C'est un peu ça l'idée. Et le savoir derrière la création de logiciels, c'est aussi accessible que l'alphabet. Hein, donc c'est là un peu il y a un bug. C'est peut-être cette idée-là et peut-être un mythe. Et c'est ce que nous dit Walter Vanini, qui est un informaticien italien, qui a écrit un texte qui n'arrête pas de faire du bruit et qui s'intitule justement Coder, c'est pas le fun. Voilà, donc c'est bien clair. Et lui, dans ce texte-là, il va démonter point par point cette idée que la programmation informatique est facile, que tout le monde peut apprendre. Il nous dit que ce sont des déclarations des gourous de la Silicon Valley, qu'elles sont beaucoup plus proches de l'évangélisme que de la réalité, et que tout le monde ne peut pas apprendre. La programmation, il nous dit, ça requiert, et c'est très arbitraire, il nous dit, ça requiert des qualités intellectuelles que peu d'individus possèdent. Donc déjà, en partant, il y a une vraie ségrégation intellectuelle à l'entrée dans le code.
Oui.
Il dit, coder, ce n'est pas une tâche routinière qui consiste à appliquer des recettes ou des solutions clés en main. Il nous dit le profil intellectuel des développeurs, il est hors norme. Ils sont à la fois ces gens-là excessivement analytiques, parce qu'il faut l'être, il y a des recettes bien évidemment, il y a une grammaire du code, mais ils sont aussi très créatifs.
Donc tu ne peux pas être juste dans l'artistique, mais tu ne peux pas être juste dans l'analytique.
Et en plus, ils ont une concentration qui est surhumaine, quasi maniaque des détails. Et il nous dit, ce niveau de concentration-là, il requiert un certain état d'esprit qu'on appelle le flow. C'est un concept, pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, qu'on doit un psychologue hongrois qui s'appelle Mihai Csikszentmihalyi. L'expérience du flow, vous irez voir sur TED, il y a une très belle conférence là-dessus. Il nous dit que c'est un état de concentration si intense qu'il amène le sujet dans un état quasi extatique. Hein, c'est un état que vont partager dans certains moments très particuliers les créateurs, les scientifiques, les artistes, les musiciens. Et en gros, c'est cette idée que vous perdez le cours du temps pour rentrer dans une relation quasi symbiotique avec votre sujet.
Ouais.
Vous connaissez Mathieu.
Quand je vous écoute, j'ai beaucoup de flow. Mais effectivement, ne serait-ce que lorsqu'on écrit, là je parle pas de tâches nécessairement si complexes que ça. À un moment donné, tous les gens autour de la table, vous avez déjà rédigé des papiers, mais à un moment donné, on dirait que ça sort tout seul. On est dans un état de concentration optimale.
Exactement.
C'est une forme de flow, cette chose-là.
Et il nous dit, la programmation, c'est pas le seul métier qui exige cette concentration-là. Mais pourtant, on n'entendra jamais dire que la neurochirurgie ou l'ingénierie du bâtiment sont amusants et faciles. Alors pourquoi on continue à véhiculer cette image de la facilité de la programmation informatique ? Et Vanini nous dit que la raison est économique principalement. On veut attirer les étudiants dans ces filières parce qu'il y a un manque flagrant de main-d'œuvre. Mais Vanini va encore plus loin. Il écrit que coder, c'est là que ça devient, c'est là qu'on fait le lien avec avec l'émission. Il nous dit que coder, c'est compliqué techniquement, mais c'est aussi compliqué éthiquement. Coder, ça pose des problèmes moraux, des dilemmes moraux à ceux qui écrivent le code. On peut penser aux véhicules autonomes, justement. Vous savez, cette idée de programmer les accidents.
Le
fameux dilemme du tramway. Est-ce qu'une auto qui est face à un accident obligatoire va renverser quelqu'un avec un casque, un vélo avec un casque ou un vélo avec pas de casque? Les armes semi-autonomes, les drones. Pensons aussi aux algorithmes comme le EdgeRank de Facebook qui décide de ce que nous allons découvrir, la fameuse bulle de filtre. Il y a du dilemme moral là-dedans. Des algorithmes qui peuvent avoir et qui ont eu une influence sur des élections et qui décident un peu de l'avenir.
Donc
du monde.
Le code, c'est en fait coder, c'est des problèmes, c'est aussi des problèmes éthiques.
Exactement.
Qui se posent. Ouais.
Et il y a Dominique Basulto du Washington Post qui dit, dans le monde d'aujourd'hui, soit tu programmes, soit tu es programmé. Il y a un déséquilibre de pouvoir entre les concepteurs des outils et tous les autres, nous, dont la vie intellectuelle et professionnelle dépend de ces outils-là. Et vous connaissez sûrement l'aphorisme de Georges Clemenceau, qui était un des grands acteurs de la Première Guerre mondiale, et qui disait « La guerre, c'est quelque chose de beaucoup trop grave pour être confié aux militaires. » c'est un peu la même chose avec la programmation. On ne peut pas laisser la programmation dans les mains des seuls techniciens, sous cette espèce de faux prétexte que leurs choix sont scientifiquement neutres. Nos sociétés, nous dit Vanini, elles sont trop complexes. L'algorithme, il n'est pas neutre, il est politique. Il faut rendre son sérieux au code, justement, parce que ça, c'est un moyen de lutter contre les abus de pouvoir des gourous de la Silicon Valley.
C'est incroyable, parce qu'on ne s'en sort pas, parce qu'on a l'impression que, par exemple, moi, je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, qui disent « Ah, mais ça ne me concerne pas, ça, l'informatique libre, puis le code libre, parce que moi, je m'en fous, j'ai mon système propriétaire, et ça me suffit. » Mais là, ce que vous nous dites, c'est qu'on s'en va tellement de plus en plus dans un monde où l'informatique est autour de nous, le numérique nous entoure, que si on ne comprend pas cette grammaire-là, on se fait avoir, on est programmé ou on n'est pas programmé.
On se fait. On programme ou on est programmé.
On se fait programmer. Mais en même temps, c'est extrêmement complexe. C'est pas une partie de plaisir. Et c'est pour ça qu'on va parler.
De chatons.
Ben oui.
On remet ça léger.
On va terminer l'émission avec des chatons. Et qui de mieux placé pour nous parler de chatons qu'Anne-Sophie Letellier, qui est doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal. Vous travaillez, Anne-Sophie, pour le groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien à la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains. C'est du titre, mesdames et messieurs?
Ben oui, c'est des longs acronymes, ça prend du temps à décrire.
C'est pour ça. Ça, c'est l'acronyme. Et vous allez nous parler de chatons. Pourquoi le chaton est important dans ces temps troubles de systèmes propriétaires?
Oui, bon, ben les chatons, le chaton, en fait, c'est un acronyme, donc je ne vais pas vous parler de chat aujourd'hui, malheureusement.
Mais au moins, pensez à une belle photo de chat.
Ben, ils l'utilisent d'ailleurs sur leur site web, c'est l'acronyme est fait pour ça. Donc, le chaton, c'est un acronyme merveilleux pour décrire un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
C'est quand même beau.
C'est merveilleux. Ouais. J'adore ça.
Ouais. Mais ça fait quoi ça dans la vie? Là? Ça mange quoi en hiver, un chaton?
Un chaton, c'est un collectif français ça a été monté par Framasoft suite au projet qui s'appelle Dégooglisons l'Internet. Mm-hmm. Donc, c'est un projet qui se veut ouvertement anti-GAFAM. Donc, GAFAM, les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et puis, dans le fond, qui était très inquiet, en fait, de la centralisation des données personnelles, des problèmes que ça pouvait poser à la vie privée et qui ont décidé, en fait, de créer un ensemble de services alternatifs majoritairement à Google et à ces grands systèmes propriétaires-là, qui seraient basés, en fait, sur des serveurs, sur des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Mm-hmm. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, j'imagine que la première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait migrer vers des services alternatifs alors que la majorité des services Google fonctionnent très bien?
Bien, c'est ça, parce que, je veux dire, la volonté de faire le saut quand on est très bien dans notre environnement, il est proche du zéro absolu.
Exactement. Il y a plusieurs raisons de vouloir utiliser de moins en moins de Google et des géants du numérique le moins possible. En fait, sommairement, ça revient toujours à des problèmes de convergence et de concentration. Donc, on voit justement les géants du numérique qui vont faire transiter la majorité de nos données personnelles, non seulement via leurs services, donc on parle ici de logiciels et tout ça, mais aussi via les infrastructures, les appareils qu'on achète, donc les appareils Google, Apple, mm-hmm. etc. Ouais. Mais ils vont aussi posséder les infrastructures, donc les serveurs. Donc, à peu près toutes. Qu'est-ce qu'on utilise sur Internet passe par là. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que de l'information, c'est du pouvoir. Puis en ce moment, ils ne sont pas méchants, mais qui sait, ça fait aussi une concentration d'informations à un endroit. On parlait de logiciels libres, c'est également une boîte noire. Il opère sans aucune transparence. On ne sait pas comment ça fonctionne. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments problématiques là-dedans. Et c'est un peu à ça
que les chatons veulent répondre.
Exactement.
Bon. Est-ce qu'ils sont rendus loin dans leur croisade, ces chatons-là?
Les chatons, ça va quand même bien. En fait, si vous allez voir sur le site Dégooglisons l'Internet, c'est une initiative française. Donc, ils ont fait une super belle map qui reprend un peu l'image d'Astérix et Obélix, donc de la Gaule. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment tout est conquis par les Romains qui sont le GAFAM. Mm-hmm. Et puis, tranquillement, on essaye de renverser tout ça en offrant des services alternatifs. Donc, moi, personnellement, je suis vendue à l'idée. Je les utilise le plus possible. Et puis, on retrouve vraiment une très vaste variété d'alternatives qui sont très facile d'utilisation.
Ben, j'allais vous poser la question, Anne-Sophie, parce que quand on a un environnement dans lequel on se sent bien, c'est chouette. Vous êtes complètement à l'extérieur de ça. Par exemple, vous êtes chercheur, vous êtes doctorante, vous avez besoin des traitements de texte, vous avez besoin de logiciels pour aller faire des recherches. Vous êtes complètement sorti de cet environnement-là, vous?
Je ne suis pas complètement sorti de l'environnement. C'est très, très difficile. J'ai un compte Facebook, mais je pense que ça va bientôt faire un an que j'ai fait une recherche Google. Puis je commence aussi à changer le plus possible. Bon, après ça, il y a toujours l'effet de réseau. Donc, quand tout le monde utilise Skype, quand tout le monde utilise des logiciels comme Slack et tout ça, c'est très difficile de dire « Non, moi, j'utilise pas ça. Mm-hmm. » Mais vraiment, à chaque fois que j'ai une opportunité de le faire, j'essaie de le faire et d'encourager mon entourage également. Moi, je suis la personne qui va un peu gosser tout le monde pour demander de changer.
Gossez-nous, on aime ça. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui sont à l'écoute et qui voudraient dire, bon, ben, OK, je vais commencer quelque part, je vais regarder, je vais essayer de me télécharger un logiciel pour voir comment ça marche, ce libre-là. Oui. On commence par quoi?
Il y a plein d'options. En fait, moi, qu'est-ce que je propose, c'est vraiment d'aller voir la liste de services et puis d'un peu regarder par quoi on peut commencer. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, parce que j'essaie des fois de moins gosser les gens autour de moi, fait que je fais juste envoyer des petits changements puis essayer de passer ça inaperçu. La première chose qui a très bien fonctionné, bon, quand on travaille en équipe puis on essaye de setter un rendez-vous, le fameux Doodle, donc pour essayer de voir les plages communes. À la place d'envoyer un lien Doodle, envoyer le lien Framadate. Les personnes n'ont même pas vu la différence et maintenant tout le monde utilise ça et je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte que c'était plus Doodle.
Ah non! et donc ça, pour prévoir des rendez-vous, Framadate, ça marche du feu de Dieu.
Ça marche un peu moins bien sur version mobile, mais un peu moins bien. Je veux dire, ça fonctionne quand même, c'est juste moins joli.
Comment on pourrait régler ça, par exemple, vous qui êtes là-dedans?
Moi, je ne programme pas, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. On essaye d'améliorer ces produits-là. Je sais que, justement, il y a un organisme québécois facile qui travaille aussi pour adapter ces produits-là. Donc, ils font des services faciles. Mm-hmm. Donc, ils vont un peu reprendre la formule de Framasoft, toujours dans une perspective de décentralisation. Donc, on ne veut pas non plus juste utiliser Framasoft. Vu que c'est en libre, ils veulent encourager les autres à prendre leur code source et à faire d'autres services à partir de là et de les améliorer.
J'aimerais ça vous entendre là-dessus, Jean-François Fortin-Tam. Mm-hmm. Vous êtes un grand utilisateur de toutes ces technologies-là. Est-ce que vous pensez qu'il manque peut-être cette petite coche supplémentaire de facilité d'utilisation qui nuit encore aux logiciels qui sont issus du domaine du libre?
Disons que le logiciel libre, traditionnellement, c'était pas quelque chose qui était centré design. C'était surtout très centré engineering.
Quel euphémisme!
Non, mais c'est vrai.
Il faut que ce soit fonctionnel, c'est ça.
Mais je le vois dans différentes communautés. Il y a des communautés qui sont dans le logiciel libre qui sont très centrées design, comme la communauté Gnome. Et qui peuvent avoir le luxe d'avoir des designers, des ergonomes qui vont émettre des recommandations, émettre des lignes directrices pour la conception d'un bon logiciel. Et les ingénieurs ont cette culture de projet, là, de les écouter et d'implanter leur vision.
Oui. Oui. Est-ce qu'un des problèmes aussi du libre, c'est pas que les programmeurs se font un CV avec le libre? Et une fois qu'ils sont seniors, eh bien, ils se font appeler par les grosses entreprises et ils s'en vont au moment où ils sont meilleurs dans leur carrière. Un peu l'appel de l'argent. C'est un côté cynique, hein, j'amène ça.
Bon, allez-y, c'est le publicitaire.
Oui, j'allais dire ouais,
avec un peu de chance, ils vont avoir des grands principes politiques puis ils vont refuser l'appel de l'argent. Mais ouais. C'est sûr qu'en ce moment, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression peut-être que c'est un modèle d'affaires, le libre, qui reste encore beaucoup à développer. Il y a beaucoup à faire économiquement pour être capable de payer beaucoup les personnes qui font ça. Mais c'est beaucoup plus basé sur un principe de collectivité. Donc, c'est pas tant je veux être payé pour faire ce que je fais, mais c'est participer à un projet.
Oui, mais c'est ça. Mais quand même, faut le dire. Et là, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Mm-hmm. On en parle depuis le début de l'émission. On parlait du gros méchant Tesla là, qui débloque pas les batteries. Mais bon, Tesla doit faire de l'argent. Est-ce que c'est possible de penser du libre dans un monde capitaliste qui est le nôtre? C'est pas une antinomie de base?
Je pense que c'est pas nécessairement, mais c'est sûr qu'il faut regarder un autre modèle économique. Par exemple, les chatons puis le projet de dégooglisons l'Internet, économiquement, c'est basé sur une mutualisation des fonds. Donc, c'est un autre modèle économique, mais qui permet quand même de rémunérer puis d'avoir...
Ah oui, donc ces gens-là qui développent ces produits sont payés, là?
Ça, je suis pas certaine. C'est sûr qu'il y a une base volontaire, mais ils ont un modèle économique.
Ouais, mais le fait est qu'on fait pas nécessairement, on vit peut-être beaucoup moins bien quand on est dans le libre que quand on va se chercher une position chez Google ou chez Facebook.
Les GAFAM vivent les universités aussi, oui, alors qu'en université, on est très bien payé, je veux dire.
Oui, c'est ça, oui, Jean-François.
Je vous rappellerai que Facebook et Google sont bâtis entièrement sur des logiciels libres pour leur infrastructure. Oui. Ils vous restreignent dans votre usage, mais c'est une autre chose.
Et même Apple, dont le logiciel, l'OS, est basé sur des architectures libres également.
Le cœur d'un moteur de macOS, c'est basé sur Darwin, c'est du logiciel libre. Mm-hmm. Mais toute l'interface par-dessus, là, ça, c'est propriétaire à fond.
C'est fascinant, hein, parce que ces gens-là, dans le fond, font beaucoup d'argent parce qu'il y a eu à la base des ingénieurs qui ont fait la promotion d'architecture libre.
Mais Infrac, c'est pas justement Apache Strat, c'est pas justement un logiciel libre aussi qu'ils utilisent comme environnement de travail?
Ah, je sais pas, j'ai pas suivi la nouvelle.
J'ai regardé ça, puis justement, t'as des très grandes compagnies qui utilisent comme environnement de travail des logiciels libres, qui s'en vantent un peu, mais finalement, la solution est barrée quand ils ont fini avec.
Oui, bien, rapidement, Jean-François.
C'est juste le point où je voulais en venir, c'est que c'est juste un modèle économique différent. Mm-hmm. Si on regarde le Red Hat, ils font du libre et de l'open source, ils ont passé le cap d'un milliard de dollars de revenus. Puis Purism, ils font des laptops. Leur but, c'est pas de vous restreindre. Le ciel, il est libre à 100%.
Ouais.
Les autres, ils vendent du matériel. Donc, c'est un modèle différent.
Ben voilà, on va suivre ça, cette belle aventure du libre, parce que c'est pas terminé. Il y a des gens qui y croient énormément et peut-être que ça prendra des grosses brèches dans la sécurité qui révéleront la vie privée de gens pour que ces solutions-là deviennent de plus en plus séduisantes. Eh bien là, on va changer de registre dans la prochaine heure sur ICI Radio-Canada Première. En fait, dans les deux prochaines heures, parce qu'on va aller joindre notre collègue Francis Reddy, à pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, mon cher Francis?
Alors, bonjour Mathieu. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale de 2 heures sur Vancouver, la Colombie-Britannique, sur ce qui se vit au plan alimentaire et à travers le regard de francophones qui vivent ici, à Vancouver. Et puis, et donc, la première heure, en plus, va se retrouver sur ces 24 heures du monde entier à TV5 Monde plus tard. Mais on écoute donc aujourd'hui tout ce qui est alimentaire, du wasabi à des grands chefs, à des vignerons.
Ben voilà, ben merci beaucoup, Francis.
Merci Mathieu.
Bye bye. On va finir ça en beauté, là, parce que là, on n'a pas... en ondes, c'est sorti un peu tout croche, mais on va au moins finir l'émission en beauté, en version balado. J'aimerais qu'on termine, Jean-François, sur Red Hat, parce que vous nous dites... On terminait l'émission en se disant que c'était un peu antinomique, parce que le libre, ben c'est difficile de faire de l'argent avec ça, fait que les programmateurs et programmeurs y vont pas. Mais là, vous nous dites que c'est possible de faire de l'argent en faisant du libre.
Le code source ouvert, si je me trompe pas, il y a de l'argent à faire avec. Wow. Quand on parle de code source ouvert, là, c'est-à-dire, j'imagine WordPress puis tout ça, que c'est des entreprises qui font de l'argent quand même. Là. Mm-hmm.
Mais c'est surtout une économie axée sur le service ou le matériel ou mm-hmm. la convivialité, ce genre de choses-là. Mm-hmm. Puis, je veux dire, Richard Stallman lui-même était pas du tout opposé à l'idée que le logiciel mm-hmm. libre soit associé à de l'argent. Au contraire, il y a souvent ces gens qui pensent que le logiciel libre doit fondamentalement être gratuit. Mais lui, Richard Stallman, il veut qu'un modèle économique se développe autour du logiciel libre.
Mm-hmm. Puis je pense que, tu sais, on parlait justement de modèles d'affaires. Bien, il est temps de repenser les modèles d'affaires parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui domine l'industrie? C'est des modèles d'affaires qui sont basés sur la collecte de données. Fait mm-hmm. que oui, c'est profitable, mais à quel prix aussi? Donc, ouais. C'est nécessaire de repenser comment fonctionnent ces choses-là puis comment on fait de l'argent aussi avec les services informatiques.
Ouais.
En fait, c'est très vrai ce que Jean-François, tu dis, parce que Emmanuel Reynaud de l'Espace Fabrique, le fait qu'elle voulait une coopérative, les gens pensaient qu'elle n'allait pas faire d'argent avec ça. T'es une artiste, puis en plus, tu veux une coopérative, tu vas faire zéro sous, puis personne ne voulait lui emprunter.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. En fait, il y a encore des préjugés, là, ce que vous nous dites là, par rapport à ça. Je reviens à ma question, Jean-François. Est-ce qu'on va voir une percée du libre avec justement la démocratisation de certains langages de programmation, de fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont capables de les maîtriser? Est-ce qu'on est au début d'une vague dont on ne se doute pas?
Ça a un peu commencé, mais surtout dans les cercles geeks un peu, mais c'est une vague qui ne fait que commencer. Je pense que le libre est amené à croître parce que c'est juste... Le libre, c'est la volonté du peuple, au final. Mm-hmm. Et l'open source, c'est un modèle de développement qui est supérieur fondamentalement. Et ça rentre massivement dans l'industrie en informatique. L'open source est partout.
Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Bon, ben c'est des bonnes nouvelles. Est-ce que, oui, Nadia?
Non, ben c'est ça, c'est la distinction, justement, libre et open source. Ouais. C'est que quand tu dis logiciel libre, puis open source, parce qu'open source, il y a plein de choses qu'on utilise à tous les jours qui sont open source, là, quand on regarde ça. Parce que quand on parle, bon, je disais justement tout à l'heure, là, quand j'ai parlé d'Equifax, c'est ça, c'était du open source, plus précisément. Puis je vois beaucoup de choses. Oh, Drupal, c'est open source aussi, je me trompe pas, le CMS, WordPress, etc. Il y a beaucoup de logiciels qu'on utilise qui sont open source, oui, mais qui ne sont pas nécessairement libres.
C'est ça. Je pense que la différence entre le open source et le libre, c'est que, bon, on a des copyrights pour protéger la propriété intellectuelle. Bien, quand on parle de logiciel libre, ça veut dire qu'il y a une licence, en fait, qui protège la liberté du logiciel. D'accord. Alors que pour le open source, bien, on dit que le code source est ouvert, mais après, on peut le propriétariser en faisant un logiciel à partir du code source. On peut le propriétariser, alors que si le logiciel est libre, bien, sa liberté est, en fait,
comme
protégée.
Comme les gens font des fois avec certains sites web où ils utilisent au départ un code source libre, puis c'est ce que j'appelle ils le barrent, puis ça devient leur logiciel de gestion.
Comme Android, dans le fond.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai, c'est tout ça. À fait, exactement. Ouais. On est parti d'un code source libre.
Bon, ben oui, un dernier mot, Jean-François.
Oui, c'est ça. C'est juste pour dire qu'au final, l'open source, c'est une méthodologie. Et le libre, mm-hmm. c'est une philosophie. C'est
d'accord.
aussi une philosophie, un aspect légal.
C'est mm-hmm. très, très chouette. On salue tous les gens qui nous écoutent. Je sais qu'on a, en fait, on a reçu un courriel la semaine passée d'une dame qui nous écoute d'Amman, en Jordanie. Ah. Donc, elle nous télécharge chaque semaine dans cette capitale du royaume Hachimite, si ma mémoire est bonne. Donc, on la salue. On la salue, cette dame qui nous écoute au Moyen-Orient. Puis, on est content que vous nous écoutiez. Puis, voilà, c'est la fin de la sphère cette semaine.
On vous laisse libre.
Oh, bien dit, merci. Bye tout le monde. À très bientôt.